Musicopolis. Weil, New York, 1943. Lorsque Kurt Weill n'est pas à New York pour discuter avec un de ses collaborateurs, pour mettre au point une nouvelle pièce, pour participer à un programme de radio ou au Lunchtime Follies, ces spectacles qui se donnent dans les usines à la pause déjeuner, il travaille tranquillement dans sa maison de New City, à une heure de New York. Une maison qu'il a pu acheter grâce au succès de Lady in the Dark en 1941. La pièce a tenu deux saisons à Broadway et en 1943, elle effectue une tournée d'une dizaine de villes américaines. Beep, beep. Beep, beep.
Where are we, Beekman?
Columbus Circle, Miss Elliot.
Oh, would you get me my blue soapbox, please? I want to make a speech. There are many minds in circulation, believing in reincarnation. In me you see one who doesn't agree, challenging possible affronts. I believe I'll only live once, and I want to make the most of it. If there's a party, I want to be the host of it. If there's a haunted house, I want to be the ghost of it. If I'm in town, I want to be the toast of it. I say to me every morning, you've only one life to live. So why be done in? Let's let the sun in, and gloom can jump in the rib. No use to beat on the doldrums. Let's be imaginative. Each day is numbered, no good when slumbered, with only one life to live.
Lorsque Kurt Weill est en plein travail sur un projet et qu'il ne veut pas perdre de temps dans les transports, il quitte Brook House, sa maison de New City au nord de New York, et il séjourne à l'hôtel Ambassador, au coin de la 51e rue Est et de Park Avenue. L'hôtel est bien situé, dans Midtown, le centre géographique et culturel de la ville. Et s'il sort, il est certain de trouver tout ce qu'il veut en matière de musique, et pas seulement dans le domaine de la comédie musicale. À quelques pâtés de maison, par exemple, en janvier 1943, Duke Ellington fait ses débuts à Carnegie Hall avec son orchestre, au bénéfice de l'effort de guerre. Des musiciens de jazz se sont déjà produits dans cette salle mythique, mais seulement dans des pièces courtes, alors que cette fois-ci, Ellington présente toute une suite, Black, Brown and Beige, dans laquelle il entend raconter l'histoire des Africains américains.
The blues ain't something that you sing in rhyme. The blues ain't nothing but a dark cloud marking time. The blues is a one-way ticket from your love to nowhere. The blues ain't nothing but a black crepe veil ready to wear. Nothing. The blues ain't the
Avec sa suite Black, Brown and Beige, Duke Ellington fait entendre pour la première fois dans une grande salle de la Manhattan blanche l'histoire des Noirs, qui à cette époque souffrent encore de la ségrégation constitutionnelle. Au printemps 1943, à New York, le prix Pulitzer innove. Pour la première fois parmi les catégories représentées, à côté de diverses spécialités de journalisme et de littérature, les organisateurs ont décidé d'introduire la musique. Le prix de $500 récompense une composition musicale dans une des grandes formes de musique de chambre, musique orchestrale ou chorale, ou encore pour une œuvre scénique jouée ou publiée pendant l'année par un compositeur résident aux États-Unis. Pour la première année, le prix a été remporté par William Schumann pour sa cantate profane numéro 2 intitulée « A Free Song » publiée à New York et exécutée par l'orchestre de Boston. La tension due à la guerre est perceptible dans la cantate de William Schumann, A Free Song, qui lui a permis de remporter le prix Pulitzer en 1943. Le compositeur s'attache d'abord à rendre musicalement la tragédie de la guerre civile américaine, avant de mettre en avant le patriotisme et de célébrer la liberté comme le droit fondamental des peuples. Une autre création américaine a lieu au début de la même année à New York, celle de la suite Music for Movies de Aaron Copland. Dans sa suite Music for Movies, musique pour des films, Aaron Copland a utilisé des extraits de la musique qu'il avait écrite pour 3 films différents. Copland tient beaucoup à ajouter quelque chose à l'action dramatique par la musique, en créant pour chaque film une atmosphère unique. Dans Grover's Corner, par exemple, que nous entendions à l'instant, il recrée pour le film Our Town, notre ville, l'atmosphère d'une petite bourgade typique du New Hampshire. Tandis que le mouvement suivant, Threshing Machines, évoque le mouvement incessant de la batteuse après la moisson, tel qu'elle apparaît dans le film de Louis Milestone, d'après John Steinbeck, « Des souris et des hommes ». Thank you. La suite Music for Movies de Aaron Copland est dédiée à Darius Milhaud, que Copland considérait comme un pionnier dans le domaine de la musique de film. Darius Milhaud, ami de Kurt Weill alors qu'ils étaient en Europe, et à présent exilé lui aussi. Justement, à propos de musique de film, on imagine bien que les comédies musicales que Weill a composées depuis son arrivée aux États-Unis intéressent Hollywood. Les droits de son « Lady in the Dark », donné à Broadway en 1941, ont été achetés par la Paramount. En juin 1943, le compositeur se rend à Los Angeles pour travailler sur la version filmée.
I should like to introduce that fearless witness, Kendall Nesbitt.
Yay!
Mr. Nesbitt, you are divorcing your wife so you can be free to marry the defendant, isn't that so?
Yes, sir.
You were led to believe the defendant would marry you when, as, and if.
Yes, sir.
But now she refuses to make up her mind.
Yes, sir.
You gave her the best years of your life, and yet she refuses to be your wife.
Yes, sir.
He gave her the best years of his life. She was, shall we call it, his mistress. 'Twas only for her he's divorcing his wife, and now the man's in a distress. The mister who once was the master of a two would make of his mistress his missus. But he's missed out on a missus, for the mistress is through. What a mess of a mishmash this is. You know, I like that music. Who wrote it?
Tchaikovsky!
Tchaikovsky? I love Russian composers. There's Malachevsky, Rubinstein, Arensky, Yentchikovsky, Sapelnikov, Dmitriev, Cherepnik, Rezhinovsky, Godovsky, Yatobuchov, Moniuszko, Akimenko, Soloviev, Prokofiev, Priyomkin, Goroschenko. There's Grinkler, Winkler, Bortniansky, Rebekov, and Yinsky. There's Metter, Balakirov, Zola, Torev, and Kvoshchinsky. And Sokolov, and Kopolov, Tukhelsky, and Klinovsky. And Shostakovich, Borodin, Glier, and Novikovsky. There's Liadov, and Karganov, Markeyevich, Panchenko. And Dargumisky, Chervachev, Skryabin, Vasilenko. Stravinsky, Rimsky, Kosakov, Kuchovsky, and Grachaninov, and Glazunov, and Cesar, Kvikalinikov. Rachmaninoff, Stravinsky and Gretchaninoff, Rumshinsky and Rachmaninoff. I really ought to stop. The subject has been brought to Paninoff.
Stravinsky,
Gretchaninoff,
Rumshinsky,
Rachmaninoff.
I better stop because we feel we all have undercut enough.
On entend dans cette chanson, extraite de Lady in the Dark, musique de Kurt Weill et paroles de Ira Gershwin, une énumération de compositeurs russes. Dans la production originale, le chanteur Danny Kaye réussit à donner 49 noms en 39 secondes. On remarque notamment Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov, Gretchaninov et Stravinsky. Stravinsky, lui aussi, est exilé aux États-Unis. Depuis le printemps 1941, il vit avec sa femme à Hollywood où il a acheté une maison. Contrairement à Kurt Weill, qui se sent américain depuis qu'il a foulé le sol du pays, Stravinsky, dont c'est le deuxième exil puisqu'il a d'abord quitté l'URSS pour la France après la révolution de 1917, est plus russe que jamais. En Californie, il ne fréquente que les milieux des émigrés européens. Sigeti, Rubinstein, Rachmaninov, la veuve de Mahler, Alma et son mari Franz Werfel, Thomas Mann, le peintre Eugène Berman. D'après Robert Kraft, qu'il a bien connu, la langue, les amis et les habitudes de la maison des Stravinsky étaient presque exclusivement russes, comme l'étaient les médecins, cuisinières, jardiniers, tailleurs, etc.
Thank you.
Si Stravinsky s'est installé à Los Angeles, ce n'est pas pour y écrire de la musique de film. C'est peut-être plutôt comme Schoenberg, en raison du climat tellement agréable de la Californie. Schoenberg, lui, a bien essayé de répondre à une commande pour un studio de Hollywood, mais il aurait voulu avoir un droit de regard sur tous les paramètres artistiques du film. Et l'affaire a finalement capoté. Schoenberg vit très modestement de ce qu'il gagne à l'université et qu'il complète par quelques droits d'auteur. Au printemps 1943, sur le conseil de son éditeur Karl Engel, de la firme Schirmer, basée à New York, et poussé par son gendre qui travaille dans la même compagnie, Schoenberg est en train de composer une pièce pour orchestre d'harmonie. Pour l'éditeur de Schoenberg, ce nouveau morceau, Thème et Variations de 1943, peut représenter une pièce intéressante à ajouter au répertoire des orchestres d'harmonie. Obtenir un succès dans ce genre musical tellement populaire aux États-Unis pourrait aider le compositeur à sortir de ses problèmes financiers. Néanmoins, avant même qu'il ait fini sa partition, il apparaît clairement que le morceau va largement dépasser les possibilités de la plupart des ensembles. Et en effet, il faudra attendre plusieurs années avant que l'œuvre soit créée. Auparavant, une version pour orchestre symphonique sera donnée à Boston par Serge Koussevitzky. À Hollywood, en tout cas, il y a bien d'autres musiciens exilés. Ils ont apporté avec eux toute leur culture musicale européenne et ils vont en faire profiter l'Amérique et l'industrie du film.
Yeah.
Amérique, Wolfgang Korngold, d'abord jeune prodige de la composition à Vienne, a obtenu tous les succès en Europe avec ses premières œuvres, avant de venir inventer un nouveau genre à Hollywood, celui de la musique symphonique de cinéma. Pour ce faire, il s'est servi de tout son métier de compositeur de musique de concert et il s'est souvent inspiré dans ses musiques de films des thèmes de ses œuvres antérieures. Comme Kurt Weill, Korngold va devenir citoyen américain en 1943. Hans Eisler, en revanche, ne va pas demander la nationalité. Il s'est installé lui aussi à Hollywood, où il écrit de la musique pour le cinéma, pour gagner sa vie et, dit-il, pour passer le temps. Il n'aime pas les États-Unis et pas même la Californie, qui est pour lui comme un décor factice. L'endroit classique pour écrire des élégies, dit-il. En 1942, il a retrouvé à Los Angeles Bertolt Brecht, avec qui il a souvent collaboré, et il va mettre plusieurs de ses poèmes en musique dans un recueil qu'il intitule d'abord « Hollywood Liederbuch », « Livre de leader de Hollywood ».
Und die Delfine graulichte Leibe tauchen aus der chinesischen See. Die Pferdewäglein mit dem Goldbeschlag, die rosa Armschleier der Matronen in den Gassen des gezeichneten Manier.
Dans son poème « Le paysage de l'exil », Brecht évoque les dériques de Los Angeles, ses jardins altérés, les gorges de Californie noyées d'ombre et les marchés aux fruits. Et il termine « Le messager du malheur n'est pas resté non plus de glace ». La musique de Hans Eisler est nostalgique et elle ajoute encore au caractère désabusé de la poésie. Lorsque Kurt Weill séjourne à Hollywood en juin 1943, il retrouve Brecht lui aussi, ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont collaboré sur les œuvres pour lesquelles Weill reste le plus connu aujourd'hui, l'opéra de Katsu et Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni. En 1943, ils travaillent ensemble sur un projet d'adaptation d'un roman satirique tchèque, Le brave soldat Schweik. Ça ne se fera pas, mais en attendant, Weill a mis en musique un poème pacifiste de Brecht et qu'a reçu la femme du soldat, que Lotte Lenya a enregistré au mois d'avril.
Was bekam des Soldaten Weill aus der Lichterstadt Paris? Aus Paris bekam sie das seidene Kleid zu der Nachbarin Neid, das seidene Kleid, das bekam sie aus Paris. Und was bekam Soldatenwein aus dem südlichen Bukarest, aus Bukarest bekam sie das Hemd, so bunt und so fremd, ein rumänisches Hemd, das bekam sie aus Bukarest. Aus
was bekam des Soldaten Weib et qu'a reçu la femme du soldat ? Dernière réponse, de Russie, elle a reçu un voile de veuve. Un poème de Bertolt Brecht, mis en musique par Kurt Weill, chanté ici par Lotte Lenya, avec très probablement Kurt Weill au piano, enregistré en 1943. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Jean-Michel Bernaud pour le mixage, Françoise Monteil pour les recherches et le site, et Philippe Petit pour la réalisation.